Le voyage à Samoa, chapitre 5, première partie. Kandy, dimanche 10 novembre 1901. Ce matin, j'ai pris une voiture et j'ai emmené Kassim, le malais musulman, qui sert de guide au temple de la dent. Nous irons voir le grand Bouddha qui dort, taillé dans le granit. Il nous faut un jinrikisha qui va suivre la voiture. Nous passons par Malabar Street et aussitôt la route descend au flanc de la montagne, parmi les cocotiers, les bananiers, les palmiers royaux et les palmiers à vin. Partout des Singalais au travail, brisant les noix de coco sur les pierres plates pour en extraire les fibres brunes. Des femmes tamoules avec leurs narines percées d'un bouton d'argent ajouré. La route surplombe de profondes vallées où s'étalent en gradins d'amphithéâtre les rizières demi-inondées qui attendent le semis. Le ciel pur est entouré à l'horizon de nuages gros de pluie. Mais il est 9 heures et l'air est encore frais sous le soleil. Voici le hameau de Talwati qui borde la route. Une petite Singalaise s'est accrochée derrière ma voiture. D'un bungalow fait de planches blanchies, par l'étroite et longue ouverture de la porte, une jolie fillette noire lui sourit et la salue de la main. « Her sister and family », me dit Kassim. La route descend toujours par des lacets lents. Au-delà des vallées et des rivières noyées, les collines s'étagent chargées d'arbres verts sombres. Nous sommes au-dessus d'une forêt de cocotiers dont les troncs diversement inclinés font des ténèbres géométriques et désolées. Les palmes roussies jonchent le sol, d'où s'élève parmi l'entrelacis des arbres nus une hutte au toit de feuilles tressées. Et la descente se fait plus rude, par une route rocheuse, jusqu'à la rive escarpée du Mahawel Ganga. Je l'avais quitté au jardin de Peradeniya. Ici, je le retrouve, roulant ses eaux rouges et épaisses d'ocre et de boue et de sang. Parfois, après les pluies, il enfle son torrent sanguinolent jusqu'à la petite boutique du péage. Et là nous attend un bac, fait d'une large passerelle flottante. Un Singalais à l'arrière manœuvre une rame fixe qui sert de gouvernail. Deux hommes assis à chaque bord de la passerelle tiennent de gros avirons. Sur ce pont, de pauvres gens sont assis, vêtus de leurs cotonnades multicolores, avec des paniers pleins de coco décortiqués. Le jinrikisha embarque et nous partons lentement. Plus haut, le Mahawili Ganga, par une sourde cascade, passe une barrière rocheuse et roule sa boue rouge en tourbillon. Mais ici, il nous dépose doucement sur l'autre rive. Ma voiture est restée sur l'autre bord de l'Ewell Ferry. Je monte maintenant dans le jinrikisha. La route rocheuse monte, très abrupte. Partout des montagnes verdoyantes, des forêts et des rizières. Et, devant nous, s'abattent des projectiles. On fait la cueillette des cocos. Kassim crie aux travailleurs de s'interrompre. Sur la route est tombée une noix de coco rouge et orangée, a king cocoa nut, dont il fait bon boire le jus le matin de bonne heure pour n'avoir pas trop chaud au soleil. Plus haut, et soudain, De la vallée monte un son de flûte doux et perçant, pareil à un hautbois qui serait aussi fifre et bagpipe, son tellement doux et frais et pur dans le calme de cette colline qu'il met les larmes aux yeux. C'est un enfant qui souffle dans la nalawa la flûte de bambou singalaise. Le chemin s'escarpe toujours plus jusqu'à la coupole de rochers qui le surplombe. Nous sommes au Tagal Torua Vihara, ou Tagal Tonu. Un petit bâtiment flanqué de deux pavillons et surmonté d'une ampoule à jour d'où pend une cloche, tout cela blanchit à la chaux. Sous les piliers de bois de la porte, la dalle de granit où sont sculptées une grande fleur de lotus entre deux petites. Puis une salle d'entrée nue et blanchie à la chaux. Trois marches jusqu'à un petit porche obscur d'où s'élève une mélopée. J'entre dans une longue cave basse où brûle une petite chandelle. Jamais je n'ai eu d'impression plus profonde. Dans la nuit de cette cave sont prosternés une demi-douzaine d'hommes et de femmes. Au fond, à gauche, debout, nus, tête rase et drapés seulement d'un long voile jaune, le vieux prêtre bouddhiste officie. Sa mélopée rythmée s'élève aiguë, un peu nasillarde. Et les croyants, par intervalles, chantent les réponses. Et la petite chandelle éclaire un grand Bouddha, long de 8 mètres, qui dort étendu, la tête appuyée sur son bras. Gavé et Bouddha sont taillés dans le granit, d'une pièce. Le Bouddha, en fort haut relief, a été patiemment poli et peint. Sa figure, son bras, ses mains et ses pieds sont couleur de chair. Sa robe est rouge, estriée de grandes côtes. La plante de ses pieds est peinte de lotus rouge, tandis que le plafond de la cave est semé d'images de lotus blanc. Et là dort le grand Bouddha, sculpté à même le granit, avec son visage impénétrable qui semble masquer un sourire, et il rêve de nirvana. Devant lui, une table d'offrande, faite de granit, porte 2 plateaux jonchés de pousses de riz et de la fleur de Bouddha, une fleur dure, jaunâtre, à 5 pétales, et dont la tige pousse 5 fleurs comme les doigts de la main. Elle a un parfum doux et épais, comme le gardénia. J'ai causé avec le vieux prêtre. Il garde le Bouddha qui dort depuis 50 ans. Depuis 50 ans, 3 fois par jour, il chante le long office et change les fleurs dans cette cave de Tagal Toru. Là viennent seulement les gens de la campagne d'alentour. Dans cette cave ancienne a été taillée, il y a 100 ans, 200 ans, l'image de Bouddha qui dort et rêve le nirvana. Par une étroite corniche, il me mène à une petite cour taillée dans le granit. Un abreuvoir carré, sans bord, et plein d'eau de pluie. Dans le flanc du roc, un trou marque l'entrée de l'ancienne cellule du prêtre. Là couchent maintenant les cobras sacrés, les cobras sauvages de la jungle qui viennent dormir, venimeuses et innocents, au cœur du rocher de Bouddha dormant. Et l'office a repris. Une longue heure, je suis restée sous le porche de cette cave. Bouddha était ténébreux. La petite chandelle éclairait fumeusement son visage. L'ombre de son grand bras flottait selon la flamme. Les voix chantaient dans la nuit. La litanie du prêtre sonnait comme un refrain trillé, rythmé de rappels de tambours et de roulements de timbales. Bouddha, immense et prodigieux, dormait et rêvait, appuyé sur son bras et souriait intérieurement. Et les pauvres Cingalais, prosternés loin des Européens, loin des insultes et des coups, espéraient le repos auquel rêve Bouddha, étendait vers lui leurs mains. La flamme vacillante, si petite, si bleuâtre, si fumeuse, jetait sur le grand visage muet le sourire obscur du feu ardent. Et la voix aiguë, roulante du rappel de timbales, chantait avec confiance la joie de l'anéantissement. S'il y a un nirvana, le grand Bouddha de Tagal Toruva Vihara l'a trouvé dans son rêve de pierre. Et les cobras venimeux qui sortent de la brousse pour dormir avec lui l'ont trouvé dans le même tombeau de songe. Je suis partie lentement. Tout était solitaire au haut de la colline. Un enfant cingalais m'attendait avec son alawa à la main. C'était le petit joueur de flûte que Cassim m'avait fait appeler. Cette flûte de bambou est fermée à son embouchure avec de la gomme végétale où une mince fente a été pratiquée. Elle est percée de 5 trous. Devant le temple, l'enfant a joué de son alawa. Et, longtemps après que j'étais descendue par la route escarpée vers mon riksha, j'entendais le son limpide monter tout au haut du roc sacré comme une fumée d'encens musical. Rest House of Nalande, lundi 11 novembre, 6h30 du soir. Me voici loin de toi, comme je ne l'ai jamais été, dans une hôtellerie perdue au milieu de la jungle, sur la route des cités ruinées de Ceylan, d'Anuradhapura, de Sigur et de Mineria. Je suis parti de Kandy ce matin à 5h avec Ting et mon guide Cassim. Monsieur de R m'avait donné une lettre pour le chef de garde de Natale, qui est sur le point où le chemin de fer s'arrête. Ce station master est un burger de Jaffner, pur sang hollandais, descendu des premiers occupants, et se nomme Ellis Rock. Il a été admirable de bonté et de dévouement. Après m'avoir forcé à prendre le thé dans son bungalow, il m'a procuré la charrette à bœuf qu'il me fallait et m'a prêté son fusil de chasse et ses cartouches. Départ à 10h, avec provision de soda water, l'eau de la jungle étant dangereuse. Équipage, moi, Ting, Cassim, un autre jeune musulman, Maji Markar, et 2 bouddhistes cingalais qui conduisent les bœufs. Ces charrettes à bœufs sont de grands chariots couverts de cercles de bois avec un feutrage de feuilles de cocotier. Derrière le conducteur sont mes bagages, valises, soda, couvertures, etc., 2 fusils, revolver dans ma poche, un matelas et 2 oreillers santé. Mais quel voyage ! Ting, qui a voyagé en brouette, préférerait recommencer. Le roulis d'une tempête ne serait pas aussi violent que les chaos de cette machine. et à 11 heures, la pluie nous empoigne, torrentiel, inéluctable, jusqu'à notre arrivée ici à 5 heures. Nous devions repartir dans la nuit pour notre seconde halte d'Ambulla, mais nous serons obligés de coucher ici. Coucher, une chambre d'allée, à 6 portes toutes ouvertes, un matelas sous une moustiquaire, voilà les relais de poste de Ceylan. Tout cela m'enchante, et je vais bien. Que te dirais-je de la route? Le ciel était blanc de pluie. Des arbres étranges, arbres à fleurs de souria, arbres à pins, palmiers royaux, haricots, acacias, arbres à fleurs d'indigo blanc, pancenolla, palmiers de 10 sortes et cocotiers. Puis la brousse verte, massive, impénétrable, faite d'un fouillis indéchiffrable de jeunes arbres, de plantes, de ronces et de lianes. Tout cela coupé parfois d'une large plantation de thé de 1000 acres. Ici est un arbre beau, très vieux, l'arbre sacré sous lequel prêcha Bouddha et où on voit grimper des singes. D'abord, nous avons traversé la longue rue de Matale, qui a plus d'un mille. Une file d'auvents sous lesquels pendent des fruits, bananes jaunes ou plantains, bananes vert bleu pour le curry, papayes, concombres, noix de coco, parmi lesquelles le coco orange, the king cocoa nut. Puis les maisons se font clairsemées, quelques bungalows couverts de chaume. Puis la forêt. Il pleut, et, par l'entrelacis des palmes sèches, les flèches d'eau trouent jusqu'à la peau. La voûte de paille de notre charrette sonne sous l'averse. Le cingalet qui touche les bœufs chante une chanson sauvage, rythmée des « da, da, doc » jetés aux bœufs pour les faire marcher. Kadji Markar essaye de boucher les interstices de notre toiture. Halte, Cassim a vu des pigeons, et je dégringole le long d'une pente de boue rouge au galop pour ne pas les manquer. 2 s'envolent au moment où j'épaule. Par conscience, j'envoie une charge dans les hautes feuilles où ils se tenaient. Les feuilles tombent. Je remonte lorsque Ting s'écrie « Arrête! Arrête in a tree !» Je vais tirer lorsque je reconnais un petit écureuil que j'ai horreur de tuer. Décidément rien, car la pluie chasse les oiseaux du paradis que Cassim m'avait promis. Soudain, des coups de tam-tam. C'était hier la fête tamoule annuelle, le Tamil Christmas, comme ils disent. Et, devant quelques huttes, au bord d'une grande plantation de thé, 4 jeunes tamouls dansent, en frappant chacun son tam-tam d'une baguette et d'une paille. Ils dansent devant un marchand de plantains. Pendant que Cassim va m'acheter des bananes, car je meurs de faim et j'aime, oui, j'aime les bananes à Ceylan, les tamouls se concertent brièvement. Soudain, au milieu des rires de l'assistance, il s'avance vers moi et danse devant moi. Un ancien joue des castagnettes de métal. Chacun frappe alternativement des pieds au rythme du tam-tam qu'il tient, et aux chevilles, il porte des bracelets de grelots qui sonnent. Le corps nu et les cuisses, leurs pagnes mouillés et collants, et ils sont très beaux. Au milieu, un 6e en turban danse en balançant une étoffe rouge. Je leur fais donner 5 cents par Cassim, et mon Mitcham Salam, merci, est salué par des Mitcham Salam répétés et des cris de joie. Si je m'étais commandé cette danse tamoule, j'aurais eu du mal à l'avoir pour 50 roupies. Il est 7 heures, Le curry va arriver. D'énormes moustiques se promènent sur ce papier, sur mes mains, sur ma lampe à pétrole. Je te quitte pour ce soir et je te retrouverai à Dambulla demain. Mercredi 19 novembre, Nalanda. Retour de Dambulla, 7 heures du soir. Je n'ai pu t'écrire hier, mais je t'ai envoyé de Dambulla une carte postale. Nuit de lundi à mardi, pluie ininterrompue. Mon rest housekeeper s'appelle Yohannis Pereira et il est même Don. Son fils Abraham Pereira voudrait tout apprendre, le français, la musique, l'aquarelle. Il est question du vieux Johannes dans le livre de Henry Cave, The Ruined Cities of Ceylon, que je rapporte avec moi. Mais le pauvre homme a été depuis envoyé en disgrâce de Dambulla ici et remplacé par son ancien domestique. Il me compte ses peines. Départ à 7 heures du matin, sous la pluie torrentielle, après thé et 2 œufs minuscules. La pluie ne cesse pas. Maintenant, nous sommes en pleine jungle. Cassim, assis à l'arrière de la charrette, ne cesse de nous défendre à coups de coussin et de mouchoir contre d'énormes moustiques et des tons très dangereux qui pénètrent par nuées. Hadji Morkar, avec mon fusil, finit par décrocher une sorte de perdrix à gorge rose. Mais les faisans ne sortent pas sous la pluie. Le Sangalais Baron chante un air très triste en mineur avec des da, tsa, doc à nos 2 petits taureaux noirs et jaunes qui font une piteuse besogne. Rien n'est plus étrange que les Sangalais et les Tamouls sous leur parapluie. D'abord, tout Sangalais convenable est vêtu d'un long veston, d'une robe fendue, faite d'une seule pièce liée à la ceinture. Il porte sur l'arrière de la tête un diadème d'écailles. Il marche pieds nus et il porte un parapluie ouvert. Ceci est vrai, même des gens les plus riches qui se bornent à se servir d'étoffes occidentales pour leurs jupes. Quant au veston, s'il n'est pas blanc, il est toujours de drap de fantaisie. Mais ici, dans la jungle, un pagne ou une jupe de cotonnade colorée. Point de diadème d'écailles, signe de haute caste, et un parapluie. Seulement, dans les pays très pauvres que nous traversons, on se sert d'une feuille de talipote, l'espèce de palmier dont les feuilles, bouillies et préparées, servent à écrire les livres sacrés des bouddhistes. Une feuille de talipote séchée représente exactement un parapluie fermé, mais non roulé, fendu dans le sens de la longueur. Cette moitié, qui s'écarte en éventail au moyen des 2 mains, se place directement sur la tête. Ce matin, qu'il ne pleuvait plus, nous rencontrions les petits-enfants qui allaient à l'école bouddhiste, tout nus, avec un petit pagne, une musette de paille en bandoulière et leurs feuilles de talipote roulées à la main. Nous passons un pauvre village tamoul de chaumières, faite de pieux lâches et de feuilles de cocotier. C'est l'Enatora, le village des écureuils. Et, en effet, à peine ai-je fait quelques pas dans la jungle pour me dégourdir les jambes qu'un joli écureuil bondit au bout d'une branche. Je veux boire, mais comme la pluie tombe à verse, c'est une entreprise difficile que de grimper à un cocotier pour me cueillir une noix de coco. seule boisson qu'on puisse obtenir. Cosim déclare qu'il faudra payer 25 cents pour en avoir trois. On les cueille, on les ouvre, elles contiennent chacune environ un demi-litre d'eau douce et fraîche. Avec cela, on me donne des bananes. Voilà le régime de la route. Dans les rest-house, les repas se composent des plats suivants. Poulet au curry, poulet grillé, poulet rôti. Curry, c'est-à-dire riz, bananes vertes, noix de coco râpées et œufs à la sauce curry, le tout mêlé. Beurre de conserve. Il est français. Mon Dieu, c'est de la margarine, pure et rance. Confiture de conserve. Bananes à volonté. Ce menu est invariable. Il est suivi d'un cigare tamoul. Ce cigare a la longueur des deux tiers du petit doigt. C'est une feuille noire roulée et liée d'un fil jaune. À peine est-ce allumé que la fumée chaude vous empoigne la bouche. C'est un brûle-gueule et cela saoule comme de l'eau de vie. Voici l'arbre G, l'arbre à pain, l'indigo ou jasmin espagnol. Le panchapane, fleur de Bouddha. Le palmier à vin. Des acacias à en perdre la tête et tout cela ruisselle sous la pluie. Nous sommes dans la saison des pluies. Ici, la mousson du sud-ouest apporte beau temps, sécheresse et chaleur. Mais je suis arrivé avec la mousson du nord-ouest et ses lents est inondé. Enfin, Dambulla à 3 heures de l'après-midi. La pluie est terrifiante. La route de jungle pour Sigiri sera impraticable. Il n'y faut plus songer. Peut-être pourrons-nous aller au grand lac de Kalawewa, qui servait de réservoir à la cité d'Anuradhapura. Cosim voudrait que j'y tue des crocodiles. Mais avant, je veux voir le Rock Temple, le Galvihara de Dambulla. Il est 5 heures, la pluie persiste impitoyable. Cosim fait des objections. Je crois qu'il renâcle et je m'entête. Il courbe la tête, nous partons. Je ne savais ce que je faisais et je dois une chandelle à Bouddha. 2 kilomètres de route sous la pluie, vers un dôme énorme de rochers, haut de 500 mètres, qui surplombe Dambulla. Un sentier par la jungle et le pied rond du rocher. Il faut gravir 2 kilomètres de surface de gneiss noir, luisant et glissant sous la pluie, traverser des torrents dans les failles, bondir de bloc en bloc, pour trouver enfin, après avoir rampé sur des plans inclinés, un escalier de blocs massifs posé là tout tremblant. Enfin, voici un porche. Je suis rendu de fatigue, trempé de sueur et de pluie. Ce n'est pas tout. Il y a là 5 temples creusés dans le roc sous la crête extrême de cette masse de gneiss. Chacun a sa cour entourée d'une muraille et ses cours sont devenues des pièces d'eau. Il faut, pour gagner l'entrée principale qui est au fond, passer sur la crête de toutes ces murailles. C'est un jeu de patience sur l'arche de Noé. Enfin, voici le petit escalier. Le prêtre en jaune nous attend et nous entrons dans une immense cave obscure, au fond de laquelle est taillé un Bouddha couché, long de plus de 12 mètres. Une odeur de cire chaude et d'encens. Une affreuse tiédeur me saisit et m'écœure après ma fatigue. Comme en rêve, je passe dans cette cave monstrueuse où Vishnu est assis près de Bouddha, où je vois la statue riche et peinte du roi Walagambahu qui fit ce grand temple et les 53 Bouddhas assis, d'une grandeur terrible, au pied desquels court une table d'offrande. Tout cela s'éclaire peu à peu avec des ombres effrayantes sous la chandelle que tient le prêtre. Il l'applique contre la muraille, et voici des fresques qui représentent le premier débarquement des Cingalais, l'an 543 avant Jésus-Christ, sous leur prince Wijayo. Le combat entre le roi Duttaganini et le conquérant tamoul Ellara. La consécration de l'arbre Bo à la fondation d'Anuradhapura par Anuradha. C'est grossier comme les fresques mexicaines ou égyptiennes primitives. Chose singulière, les Cingalais paraissent avoir été de race blanche dans ce temps-là, car la peinture distingue des visages jaune clair et des hommes bleu noir. Mais mon malaise augmente. Il me faut sauter l'enceinte des Bouddhas assis, après permission du prêtre, pour gagner la porte. Là, trempé de sueur, je me remets un peu à l'air frais. Le prêtre nous presse de partir. La nuit est venue. Du haut de ce dôme noir, nous voyons toutes les hautes montagnes, la menaçante forteresse de Sigiri et les pylônes d'Anuradhapura. En marche. Le jour baisse et nous glissons sur le roc. Voici la nuit. Nous nous tenons tous les trois, Ting, Kasim et moi. Tous les deux pas, l'un ou l'autre glisse et tombe. Nous nous retenons. Kasim se déchire le pied et il perd son chemin. Alors commencent les lamentations musulmanes. « Puisse la langue m'être coupée, si je n'avais pas annoncé tout cela à monsieur. Voici la 9e fois que je viens et la première que ça m'arrive. Hélas, monsieur a des souliers, moi je n'en ai pas. Voici que j'ai une mauvaise plaie. Peut-être qu'un cobra va venir me mordre. Et alors pied perdu, homme perdu. Et j'ai ma sœur qui a 6 enfants. Hélas, hélas !» Il nous ramène. Il va chercher une lumière. Le prêtre a disparu. La nuit est épaisse. Nous sommes très loin de l'escalier, sur une pente polie de gneiss. Et quand nous l'aurons retrouvé, nous ne saurons poser le pied sur les blocs disjoints. Une heure nous errons là, jouant avec la chute. Cela ne peut se raconter. Enfin l'escalier, quelle descente! Et ensuite de nouvelles pentes de gneiss. Nous nous croyons au bas quand nous roulons sur des blocs, encore des blocs. Hamdoullah! Grâce à Dieu, une masse obscure annonce la jungle. Après quelques allumettes, nous y sommes. Maintenant, boue, marécage, tout nous est égal. J'oublie de dire que j'ai les deux jambes trempées, Kasim ayant voulu me porter à travers les 5 cours noyés et ayant plongé sous le fardeau. Voici la route. Nous revenons au rest house parmi un terrifiant chant de grenouilles qui font exactement le bruit des tam-tam tamouls. Il doit y en avoir plus de 200. Le maître du rest house a envoyé à notre recherche la charrette et nous le trouvons sur la route pour venir nous porter secours, armé d'une lanterne. Décidément, nous avons été en danger. Ting me déshabille.